que ce soit des gens qui gravitent dans le milieu trans ou dans le milieu gay. Voilà.
Il y a beaucoup de choses dans ton livre, Vincent.
Oui, moi ce qui m'avait vachement intéressé dans ton bouquin, parce qu'on s'en est bouffé quand même des bouquins autobiographiques trans. Mon téléphone.
Monsieur Vincent, voulez-vous
et donc ce qui m'intéressait, c'est justement ça, c'est pas le discours basique de la fille qui devient un garçon ou sens inverse, non. Et il y a tout ce contexte judiciaire qui est très présent, mais il y a aussi toutes ces parties, comme tu dis, plus cul, et qui sont vraiment juxtaposées sans qu'il y ait vraiment le paragraphe et tout le reste. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment que tu en parles ouvertement, tu mets dans la sphère publique et la sexualité et le fait que c'est trans et vraiment se mettre à nu en entier. Toi-même, tu le disais, est-ce que tu étais obligé, on t'a demandé si tu étais obligé de mettre ces parties plus sexuelles.
Non, mais après, c'est des gens à la lecture qui m'ont dit, mais est-ce que tu étais vraiment obligé, pour quelques personnes comme ça, mais en gros, la réaction de la plupart des gens qui m'ont fait part de leur comme ça de leur sentiment à l'écriture du livre était plutôt une sorte d'adhésion et de trouver que c'était assez cohérent finalement que tout soit exposé. C'est-à-dire moi au départ quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé la question du lecteur, donc je suis parti et j'ai écrit et c'était pour moi une nécessité, voilà. Donc j'ai même pas cette forme elle ne s'est même pas organisée de cette manière consciemment, ça s'est imposé, c'est-à-dire que de faire comme ça des allers-retours entre le passé et le présent et entre le passé très proche et le passé plus lointain, parce que inévitablement quand on vous demande de parler d'un passé immédiat, c'est-à-dire là c'était un épisode de 3 ans, on va forcément plus loin, c'est comme une psychanalyse, c'est-à-dire qu'on va plus loin, on va à l'enfance et tout ça, et si on déballe pas tout ça, ben ça sert à rien d'écrire sur soi. Donc moi je me suis dit, je me mets dans cette position et je déballe tout, et on va voir ce que ça va donner, et puis voilà.
Tom, une question ?
C'est pas une question, c'était juste un commentaire, donc c'est vrai qu'on parle d'homophobie, mais la transphobie aussi, puisque je crois qu'il était dedans. Et puis, c'est quoi une sexualité épanouie?
Ça, c'est clair. C'est clair, je ne veux pas attaquer maintenant personnellement ce psychiatre, mais que je connais un petit peu, parce que Reims, encore une fois, c'est une petite ville, donc bon, c'est pas comme quand on est noyé dans une grosse ville. Donc, l'hypercentre de Reims, les gens se connaissent, donc ce type, je le connaissais, il me connaissait, donc je suis pas non plus un anonyme. Bon, même si j'ai pas de vie ouvertement, trans, et je me suis jamais présenté de cette manière-là. En même temps, Reims, on me connaît comme réalisateur, etc. Bon. Et ce type, ce psychiatre me connaissait. Donc dire ça, enfin, c'est quand même très, très... Tout ça, il y avait derrière toutes sortes d'attitudes de gens, enfin, qui gravitaient comme ça dans le milieu judiciaire, une certaine dose de perversité. Et ça, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, et voilà.
C'est ce que tu dis là, je veux dire, c'est quelque chose que nous on constate très souvent dans notre relationnel avec les institutions, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient médicales, parce que bon, au moins ici on est 3 déjà à avoir eu affaire à la justice à des titres divers. Donc cette espèce de perversité qui consiste à dire ce qui n'est pas dans la norme, ce qui marche en dehors de la norme, que ce soit les gays et lesbiennes, et je crois que l'idée même qu'on ait à la fois instrumentalisé une homophobie, pédophilie et transphobie à tout regard, illustre bien la nature des combats qui restent à faire encore aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, derrière ça, l'idée que forcément, t'es trans, donc forcément, il n'y a pas de fumée sans feu, t'es forcément coupable de quelque chose.
Mais en même temps, tu vois, au départ, je me suis jamais posé comme une victime, et ça c'était surtout essentiel, enfin, pour pouvoir lutter. Et dans un certain sens, c'est pour ça que ça devient politique. C'est que au départ, quand j'ai eu cette accusation, évidemment, je l'ai pris sur la gueule. C'était très dur pendant quelques jours. Et après coup, je me suis dit bon, maintenant, il va falloir me battre. Mais me battre, c'est-à-dire avoir une connaissance parfaite du dossier, des rouages de la justice, etc., pour pouvoir me défendre. Mais je me suis jamais posé comme une victime, comme un bouc émissaire, c'est sûr, en me disant que finalement, j'avais tout accumulé, trans, PD, avec un garçon de 17 ans, enfin tout ça, plus le fait que je m'intéressais aussi en tant que réalisateur à des auteurs hors normes. J'ai travaillé sur Pierre Guillotin, un des premiers films que j'ai fait, sur Pasolini, sur Bill T. Jones, donc, qui est quand même un chorégraphe américain qui est très militant. Donc, En même temps, je me suis dit, finalement, c'est tout, quoi. Il faut pas non plus s'étonner on est dans un monde quand même assez réac. En général, il faut pas s'étonner. Et même mon avocat, à un moment donné, il s'est pas mis à rire, mais il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous alliez dans un établissement scolaire, parce qu'en plus, donc, comme je lui parlais, aussi la façon dont se passaient les cours avec les élèves, etc. Tous les garçons de la classe, bon, ils savaient pas que j'étais trans, mais ils me faisaient la bise, voilà, parce qu'ils me trouvaient sympa et tout. Il a une tête d'épreuve quand il me voyait me balader avec ce groupe d'élèves, enfin, ils avaient de 17 à 25 ans quand même, ils étaient tout le temps, ils s'avaient choqués. Et quand j'ai été accusé de ça, ils ont dû se dire, oh, c'est pas étonnant, de toute façon, voilà.
En fait, finalement, tu ne jouais pas le rôle d'un système, tu étais toi, en fait. Et effectivement, lorsque tu as été mis devant la justice, tu as eu affaire à des gens qui jouaient leur rôle. Et quelque part, est-ce qu'on ne t'a pas forcé à jouer ce rôle, et toi, tu n'y connais rien à ce rôle. Homme, femme...
Je connais rien, c'est-à-dire que...
Mais tu peux pas se forcer, oui.
Non, mais je trouve, enfin, pour revenir à ces rôles d'homme et de femme, moi je trouve que, enfin, en étant FTM, comme on dit, on a un avantage extraordinaire, c'est que je pense qu'on perçoit un peu des deux. Donc on a un passé de fille, donc on a des souvenirs plus ou moins lointains ou plus ou moins précis pour certains. De ce qu'on était quand on était une fille, de ce qu'on pouvait ressentir, etc. Et puis avec un traitement hormonal, etc., de ce qu'on peut aussi ressentir. Et je pense qu'on s'est très proche de toute façon de la condition d'homme, même si on va pas jusqu'à l'opération. Et donc on a un avantage extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut vraiment exploiter. Donc quand tu dis...
Au-delà de ça, je parle aussi non pas seulement du rôle de femme ou homme, mais le psychiatre joue son rôle de psychiatre. Dans ces cas-là, bon, il n'est ni homme ni femme, enfin je veux dire. Le système dit quelque chose. La norme est celle-ci, et on essaie de te rentrer, de te caser. Oui. De te casser, c'est ça que je veux dire. Bon, ça... C'est vrai que...
Je pense que c'est quand même la même chose. Enfin, il s'agit d'un statut social.
Un statut social.
Psychiatre, être homme ou femme, c'est aussi un statut social pour moi. Enfin,
nous allons peut-être faire une petite pause musicale, histoire de reprendre notre souffle.
Qu'est-ce qu'on met?
Je vous mets là parce qu'il y a plus de fond.
Alors, je parle. Donc, le premier morceau qu'on avait entendu tout à l'heure, c'était la superbe voix de Kathleen Ferrier, qui fut une contralto, qui est morte en 1951. Et donc, c'est une grande interprète de Gustav Mahler. Et elle chantait le dernier air du chant de la terre, qui s'appelle l'Adieu. Mais alors, ce qui est émouvant, c'est qu'en fait, quand elle chantait cette terre, elle savait qu'elle était condamnée à mourir parce qu'elle avait un cancer. Et elle a une voix magnifique de contralto, quelque chose, c'est une des plus belles voix. Et le deuxième extrait qu'on a entendu, c'était David Daniels, qui est un homme, qui chante avec une voix de contre-ténor. Et donc, il y a un contraste étonnant parce qu'elle, Catherine Ferrier, qui est une femme assez, quand même, assez féminine, quand on voit les photos, elle a une voix de contralto magnifique. Et lui, David Daniels, chante avec cette voix de contre-ténor magnifique et chante un morceau de Schubert, un lead. Qui s'appelle Mise et Rêve. Voilà.
Ouais, c'est très joli.
Et ça illustre parfaitement cette ambiguïté qui est la nôtre, qui est dans chacun de nous, et dont nous allons parler un peu plus maintenant à l'occasion de ce livre de Ludwig Trovato et la représence de Ludwig, mon corps en procès. Moi j'avais envie de citer un court extrait qui m'a beaucoup marqué, touchant son livre dans ce livre. Nous, on a parlé de la procédure de l'aspect judiciaire, de l'aspect mis en ligne de la personne et de ce corps. Ludwig écrit dans la page 150, il n'y a de sexe que le mien, et que celui qui ne me croit pas vient me voir. Car il y a maintenant tout entier en moi, et ma tête et mon ventre explosent de ce super sexe à l'infini. Je ne suis pas asexué, au contraire, j'en suis ultra asexué. Tout en moi est sexe, le respire et inspire. Que t'inspire ton texte?
Mon texte ne m'inspire plus grand-chose aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il ne m'inspire pas moi. Il m'a inspiré dans un certain moment, ouais. Alors, je sais pas si on peut parler vraiment d'inspiration d'ailleurs quand on écrit. C'est une sorte de d'aspiration et puis d'expulsion, mais ouais.
Moi j'ai trouvé, malgré tout, malgré le côté un peu, tu disais bien, tu n'étais pas une victime, tu étais le bouc émissaire, il y a quand même une certaine jouissance à écrire. sur cette sexualité, sur ce corps.
Oui, c'est très jouissif, c'est tout à fait exact, parce que c'est vraiment ce que j'ai éprouvé. Cette forme de jouissance que j'avais pas, je connaissais pas cette façon de m'exprimer, enfin de s'exprimer par les mots, c'est magnifique, de pouvoir décrire son désir, de pouvoir parler de son corps, et c'est très excitant, je trouve que c'est vraiment très excitant, même si vraiment c'est un peu barbant, et comme j'ai expliqué à Maxime tout à l'heure, avant l'émission, qu'on n'a pas forcément envie d'écrire tous les jours, mais qu'on se force, quoi. Parce que Maxime me disait que lui, par le moment, il a envie d'écrire, et qu'en ce moment, il n'avait pas vraiment envie d'écrire, ben, je lui dis, mais en plus, il faut, enfin, quand on a envie de s'exprimer par des mots, il faut s'astreindre à un certain moment donné à travailler, quoi. On n'est pas tout le temps inspiré et on n'a pas tout le temps envie de le faire, mais quand on le fait, c'est magnifique. Et puis quand on arrive vraiment à sortir ce qu'on veut, c'est magnifique. Alors, en ce moment, justement, je travaille sur un autre texte, puisque là on parlait de sexualité, qu'il y avait des passages un peu comme ça, de description assez crue d'aventures sexuelles. Donc j'ai eu l'opportunité avec un éditeur qui s'appelle Little Big Man, qui m'a proposé de diriger une petite collection d'ouvrages sur la sexualité et de commencer par écrire un livre autobiographique. Donc là j'ai entrepris l'écriture d'un texte très personnel et très autobiographique et très sexe, quoi.